Chapitre 3. L'ouverture finie. Saint-Alban, 14 juin. Mon très cher Franck, quelle chose terrible que d'entendre votre nom crier à tue-tête en public. Et quelle voix il avait, cet homme. Il n'a fait que brailler de toute sa force, Maud Selby, de cette paroisse, comme s'il voulait le faire savoir à la paroisse entière. Après quoi, il vous a nommé sans y mettre tant de façons. Il trouvait, n'est-ce pas, que Frank Cross, de Woking, était dépourvu d'intérêt local. Mais quand il a promené autour de lui un regard interrogateur, après avoir demandé s'il existait une cause connue, un empêchement légitime à notre union, j'eus un véritable frisson. Il me semblait qu'un diable allait jaillir d'une boîte à surprises et faire un scandale dans l'église. Quel soulagement j'éprouvai lorsqu'il passa à un autre sujet. Je cachai ma figure entre mes mains, mais je sais que j'étais rouge jusqu'au cou. Alors je vous regardais entre mes doigts, vous étiez assis tout à fait froidement, l'air content, comme si cela vous plaisait. Je crois que nous irons à l'office du soir la semaine prochaine. Papa a renoncé entièrement à y aller depuis l'arrivée du nouvel organiste. Il dit qu'il ne peut pas se faire sa musique. Quels charmants instants nous avons passés ensemble! Jamais, jamais je ne l'oublierai. Oh, Franck, comme vous êtes bon pour moi! Et comme j'espère que vous ne regretterez pas ce que vous faites! Tout est pour le mieux maintenant que je suis jeune et que vous me trouvez jolie. J'aime que vous me trouviez telle, mais je suis forcée de vous dire qu'il n'en est pas ainsi en réalité. Je ne puis me figurer comment vous en êtes venu à le croire. Je suppose que c'est parce que vous m'avez vu si souvent à côté de papa. Si vous me voyez à côté de Nelly Sheridan ou d'une autre jeune fille vraiment jolie, vous remarqueriez aussitôt la différence. Il se trouve justement que vous aimez les yeux gris et les cheveux bruns et le reste, mais cela ne veut pas dire que je sois réellement jolie. Je serais bien fâchée qu'il y eut quelque malentendu à ce sujet et que vous vous en aperceviez seulement quand il sera trop tard. Vous devriez garder cette lettre pour servir de rappel, comme dit papa, et alors elle vous intéressera dans la suite. Je serais bien aise que vous me voyiez en ce moment, ou plutôt non, je ne voudrais pas pour tout au monde que vous me voyiez. Je suis si rouge, si mal mise, c'est que j'ai fait la cuisine. N'est-ce pas absurde quand on y réfléchit, qu'à nous autres jeunes filles, on enseigne les verbes irréguliers français et la géographie de la Chine, mais qu'on ne nous apprenne pas à faire cuire la chose la plus simple? Cela paraît vraiment ridicule. Mais il n'est jamais trop tard pour se corriger. Aussi, ce matin, suis-je allée à la cuisine. J'ai fait une tarte. Vous ne vous imagineriez jamais quel tas de choses il faut, même pour une chose aussi simple que cela. Je croyais que la cuisinière plaisantait quand elle a aligné toutes ces choses devant moi. Il y avait un bol vide, un bol plein de pommes coupées en tranches, une grande planche, un rouleau, et des œufs, et du beurre, et du sucre, et des clous de girofle, et naturellement de la farine. Nous avons cassé les œufs pour les mettre dans un bol. Vous ne vous figurez pas le gâchis que fait un œuf quand il manque le bol. Puis nous les avons battus avec de la farine et du beurre, et je ne sais quoi encore. J'ai battu jusqu'à ce que je fusse à bout de force. Il n'est pas étonnant qu'une cuisinière ait d'ordinaire un grand et gros bras. Alors, quand cela a formé une pâte, nous l'avons roulée, nous avons rangé les pommes sur le plat, nous l'avons couvert, nous avons relevé les bords, mis par-dessus, ici et là, des feuillets de pâte et, au milieu, la jolie petite couronne. Ensuite, nous l'avons mise au four jusqu'à ce qu'elle prît une couleur brune. Elle avait l'air d'une belle tarte et maman me dit que j'avais une tarte des plus solides. Il est certain qu'elle était très lourde pour sa dimension. Maman ne voulut pas en goûter parce qu'elle dit qu'elle croyait que le docteur Tristram ne l'approuverait pas, mais j'en mangeais un morceau. Ce n'était vraiment pas trop mauvais. Maman dit qu'on la donnerait aux domestiques à dîner, mais les domestiques observèrent que le pauvre nettoyeur de carreaux avait une nombreuse famille. Aussi, nous la lui donnâmes. Il est bien doux de sentir qu'on a été utile à quelqu'un. Croiriez-vous ce qui est arrivé ce matin? Ce sont deux cadeaux de noces. Le premier se compose d'un beau couteau à poisson et d'une belle truelle dans un écrin. Cela vient de cette bonne vieille Mistress John Bayrick, de qui nous n'avions certainement rien à attendre. Nous trouvons tout cela bien bon de sa part. Et quel joli couteau à poisson! L'autre est un superbe sac de voyage, envoyé par l'oncle Arthur et portant gravées en or les initiales M.C. Oh, que c'est dommage! On s'est trompé d'initiales! Cette remarque a fait rire maman. Je suppose qu'on s'y habitue vite. Demandez-vous ce que vous éprouveriez si l'on avait fait tout le contraire et que votre nom eût été mis à la place du mien. On pourrait vous appeler Selby, vous n'en seriez pas moins certain d'être grosse. Je n'ai pas entendu plaisanter, mais les femmes font des plaisanteries sans le vouloir. L'autre jour, le vicaire se promenait dans sa charrette à âne et maman a dit « Oh, le gentil tandem !» Je crois qu'elle voulait dire « le gentil tape-cul ». Mais papa a observé que c'était le mot le mieux venu qu'il ait entendu depuis longtemps. Maman a donc été très contente, mais je suis sûre qu'aujourd'hui encore, elle ne sait pas pourquoi c'était si drôle. Quelle lettre stupide j'écris! N'êtes-vous pas effrayée quand vous les lisez et que vous dites « voilà donc la personne à laquelle j'ai à passer ma vie » Et cependant, on dirait que vous n'êtes jamais inquiet à ce sujet. Je trouve que c'est bien de la bravoure de votre part. Cela me rappelle que je n'ai pas encore fini ce que je tenais à vous dire au début de cette lettre. En supposant même que je sois jolie, alors que j'ai un teint qui est tout simplement affreux, vous devez songer combien les années passent vite et combien vite une femme change. Et à peine serons-nous mariés que vous me trouverez toute ridée et sans une seule dent. Pauvre garçon, comme c'est terrible pour vous! Les hommes ont l'air de changer si peu et si lentement. En outre, cela n'a pas d'importance pour eux, car on n'épouse pas un homme parce qu'il est joli. Mais il faut que vous m'épousiez, Franck, pour ce que je suis et non pour mon apparence, pour mon moi intime, profond, au point que si je n'avais point du tout de corps, vous m'aimeriez juste autant. C'est de cette façon-là que je vous aime, mais néanmoins, je vous préfère avec votre corps. Je ne sais comment je vous aime, mon chéri. Je sais seulement que je suis dans les rêves quand vous êtes près de moi, et c'est un beau rêve. C'est pour ces moments-là que je vis. Toujours votre petite chérie, Maud. Papa nous a fait une belle peur. Il vient d'entrer et de nous dire que le nettoyeur de vitres et toute sa famille étaient très malades. C'est une plaisanterie, parce que le cocher lui a parlé de ma tarte. N'est-ce pas affreux de sa part ? Woking, 17 juin. Ma très charmante Maud, je vous demanderai de vous rendre à Londres samedi matin. Je vous reconduirai chez vous à Saint-Alban dans la soirée, et nous aurons ainsi une autre jolie fin de semaine. Je ne pense pas à autre chose et je compte les heures. Tâchez donc d'arranger cela et ne vous laissez pas arrêter par quoi que ce soit. Vous savez que vous arriverez à faire tout ce qui vous plaît. Oh oui, vous le pouvez, Miss, je le sais. Nous nous retrouverons devant la bibliothèque de la gare de Charing Cross à 1 heure, mais s'il y avait quelque chose de détraqué, télégraphiez-moi au club. Alors nous pourrons un peu courir les magasins ensemble et nous amuser aussi un peu. Dites à votre mère que nous reviendrons bien assez tôt pour le dîner. Faites une autre tarte et je la mangerai. Les affaires se ralentissent au bureau en ce moment et on pourrait se passer de moi pour quelques jours. Ainsi donc, vous avez reçu le couteau à poisson. C'est bien étrange parce que ce même jour, j'ai reçu mon premier cadeau et c'était aussi un couteau à poisson. Nous aurons du poisson à chaque bout de la table quand nous donnerons à dîner. Si nous recevons un troisième couteau à poisson, alors nous donnerons un dîner au poisson ou nous garderons un des couteaux pour en faire présent à votre amie Nelly Sheridan quand elle se mariera. Ils auront toujours servi à quelque chose. Et j'ai reçu encore 2 autres cadeaux. L'un est une théière à alcool offerte par un de mes amis de bureau, l'autre une paire de bronze qui vient du club de cricket. Ils l'ont acheté à mon insu et j'ai été abasourdi quand une députation s'est présentée de leur part chez moi hier soir. Puisse votre engagement être long et puisse votre partie se prolonger sans interruption jusqu'au jour où chacun de vous aura compté jusqu'à 100. Telle était l'inscription de la carte. J'ai quelque chose de grave à vous dire. J'ai jeté un coup d'œil sur mes comptes, je dois bien plus que je ne croyais. J'ai toujours été inconscient et je n'ai jamais su exactement où j'en étais. Cela n'a pas d'importance quand on est célibataire, car on sent bien qu'on peut toujours mener une vie plus simple pendant quelques mois et réparer ainsi le dommage. Mais maintenant, c'est plus sérieux. Les notes se montent à plus de 100 livres, la plus grosse de 42 livres, à Swale & Walker, les tailleurs de Conduit Street. Néanmoins, je leur commande mon costume de mariage et cela les fera rester tranquilles. J'ai assez d'argent disponible pour payer la plupart des autres. Mais il ne faut pas que nous soyons réduits à écourter notre lune de miel. Quelle perspective terrible! Peut-être se trouvera-t-il quelques chèques parmi nos cadeaux. Espérons pour le mieux. Il y a une chose plus grave sur laquelle je tiens à vous consulter. Vous m'avez demandé de n'avoir jamais rien de secret pour vous. Sans cela, je ne vous ennuierai point au sujet de choses pareilles. J'aurais gardé cela pour samedi, mais je veux que vous ayez du temps pour y réfléchir, de façon qu'alors nous puissions prendre une décision. Je me suis porté caution pour une somme indéterminée d'argent. Cela semble terrible, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas aussi terrible qu'on le croirait, car il n'est rien survenu de fâcheux jusqu'à présent. Mais il s'agit de savoir ce que nous aurons à faire plus tard. Il n'est pas facile de répondre à cette question. C'est un garçon fort agréable, un agent d'assurance, et il s'est trouvé dans une situation assez embarrassée pour ses comptes l'année dernière. La maison l'aurait renvoyé, mais comme je connaissais sa femme et sa famille, je me suis porté caution qu'il ne se mettrait plus en faute à l'avenir et j'ai ainsi empêché qu'il ne perdît son emploi. Il se nomme Farintosh. C'est un de ces gens aimables, faibles, de ces bons garçons pour lesquels on ne peut s'empêcher d'avoir de l'affection, bien qu'on ne puisse jamais leur accorder sa confiance. Évidemment, nous pourrions faire savoir que nous ne voulons pas être responsables plus longtemps, mais ce serait un coup de foudre pour cette pauvre famille, et ce serait certainement la perte de notre homme. Nous ne voulons pas inaugurer notre bonheur en faisant le malheur de quelqu'un, n'est-ce pas? Mais nous parlerons de cela, et je me conformerai à votre avis. Vous comprenez bien qu'on ne peut s'adresser à nous que s'il venait à manquer à ses engagements, et il est contre toute vraisemblance qu'il le fasse après la leçon qu'il a déjà reçue. Je trouve que la maison fera magnifiquement l'affaire. Elle se nomme Les Tilleuls. Elle est située sur la route de Maybury, à un quart de mille au plus de la gare. Si votre mère et vous pouvez venir mardi ou mercredi, je prendrai une demi-journée de congé et vous seriez en mesure de la visiter. Quelle jolie petite pelouse par devant, avec jardin par derrière. Une serre, s'il vous plaît, salle à manger et salon. Vous ne pouvez jamais réunir plus de 4 ou 5 invités. Les jours où vous resterez chez vous, nous pourrons mettre de petites affiches, comme on le fait en dehors des théâtres. Salon complet, salle à manger complète. Place disponible dans la serre. Il y a 2 bonnes chambres à coucher, une grande chambre de bonne et une pièce de débarras. Une cuisinière et une bonne à tout faire s'y trouveraient à merveille. Loyer 50 livres avec un bail de 3 ans et, en y comprenant les impôts, 62 livres. Il me semble que cela a été bâti pour nous. Rupton Hill dit que nous devrons faire attention à ne pas frôler les murailles et qu'il serait plus sûr de sortir pour éternuer, mais ce sont des plaisanteries de son goût. J'espère être en bonne forme samedi. Je suis l'homme des humeurs. Tant pis, elles viennent sans se préoccuper le moins du monde de ce que je veux être, ni des motifs que je puisse avoir pour cela. J'espère que j'arriverai à faire une journée agréable pour vous, de cette journée-là, la dernière que nous passerons ensemble avant le jour. Parfois, j'ai été pour vous une société si mauvaise alors que je souhaitais être dans mes meilleurs moments. Mais vous êtes toujours si douce, si patiente, si calmante. Donc, à samedi, ma chérie. Celui qui vous aimera toujours, Franck. Je rouvre ma lettre pour vous dire qu'il m'arrive à l'instant un somptueux couteau à poisson sur lequel sont gravées nos initiales de la part de Mrs. Preston, une vieille amie de mon père. Je suis allé hier dans l'après-midi à la Compagnie des Orfèvres, Regent Street, et j'ai acheté, le croirez-vous, l'anneau est si beau à voir sur son emballage de coton blanc comme neige. Je les aime très larges et un peu plats. J'éprouve les sensations les plus étranges quand j'y jette les yeux. Quoi qu'il arrive, que ce soit du beau ou du mauvais temps, du chagrin ou de la joie, cette petite lame d'or ne nous quittera jamais. Nous la verrons tant que nous aurons des yeux pour voir. Deuxième PS. Samedi, samedi, samedi.